VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La Cour constitutionnelle de Zambie a rejeté aujourd'hui le recours formé par le candidat malheureux de l'opposition Hakainde Hichilema contre la réélection le 11 août de justesse et dès le premier tour de son rival, le président sortant Edgar Lungu. Ce recours ne sera pas examiné par cette Cour, a indiqué dans un jugement la juge Anis Itali après l'expiration vendredi du délai légal de recours de 14 jours. Partisans et adversaires du président sud-africain Jacob Zuma se sont retrouvés aujourd'hui lors d'un face-à-face tendu devant le siège du Congrès national africain, la ANC à Johannesburg, nouvel épisode des divisions qui agitent le parti au pouvoir. Les militants de l'ANC hostiles à M. Zuma, une vingtaine, ont voulu forcer l'entrée du quartier général du mouvement, mais en ont été tenus à distance par un imposant dispositif policier et un cordon de défenseurs du chef de l'État. La position de Jacob Zuma est de plus en plus contestée au sein de l'ANC, en raison notamment de la persistance de la pauvreté au sein de la majorité noire plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Crise sud-soudanaise, l'intense pression internationale a fini par avoir raison de la réticence du président Salva Kiir, qui a accepté l'envoi de casques bleus supplémentaires dans son pays. Timothée Donangmaï.
Le chef de l'État sud-soudanais et une délégation du Conseil de sécurité en visite à Djouba ont publié dimanche un communiqué conjoint dans ce sens. 4000 casques bleus fournis par divers pays africains seront chargés de sécuriser la capitale sud-soudanaise et de protéger les civils. Ils auront un mandat plus robuste que celui des 12 000 soldats de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, qui ont été critiqués pour n'avoir pas été capables de protéger la population lors des violents affrontements de juillet entre la garde rapprochée de l'ex-vice-président sud-soudanais Riek Machar et les troupes loyales au président Salva Kiir. Pour l'heure, le calendrier du déploiement des nouvelles troupes internationales n'est pas connu. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU a visité samedi un camp de déplacés dans la capitale sud-soudanaise. C'était l'occasion de voir les conséquences humaines de l'échec des leaders politiques à rétablir la paix dans leur pays, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power.
Internet a été partiellement rétabli aujourd'hui à Libreville au Gabon après une coupure totale de 5 jours depuis l'annonce de la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Les réseaux sociaux restaient cependant inaccessibles ce matin d'après l'AFP, mais l'on continue de s'interroger sur le sort des personnes arrêtées après les émeutes de la semaine dernière. Jean-Rovis Dabani, notre correspondant à Libreville, fait le point.
Près de 1500 personnes ont été arrêtées et selon le commandant-chef de la police nationale, il s'agit des pillards et des casseurs. C'est ce qui inquiète les avocats et les membres de la société civile. La situation des opposants reste floue puisque les 26 personnes retenues dans le QG de l'opposant Jean Ping à Libreville ont été libérées après les négociations menées par le diplomate onusien Abdoulaye Batili, qui est le patron du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et on se souvient que dans son discours, le premier du genre depuis la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, Jean Ping a appelé ses partisans au calme, réclamant à nouveau le recomptage de voix bureau par bureau, ce que ne prévoit pas la loi. Et samedi soir, le premier ministre a appelé les travailleurs à regagner leur bureau lundi matin. Mais à Libreville, le dispositif policier a été allégé dans les quartiers qui ont connu des violences, à l'exception du palais présidentiel, dont les accès sont restés bloqués par des blindés de la garde républicaine.
Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique au Gabon. Au Cameroun, la rentrée scolaire ne s'annonce pas de tout repos. En effet, des milliers d'étudiants et leurs enseignants reviennent de vacances pour avoir la mauvaise surprise de voir que leurs écoles ont été mises sous scellé. Le gouvernement affirme que plus de 300 établissements ont été fermés parce qu'ils opéraient sans autorisation. Les autorités de Yaoundé précisent que la qualité de l'enseignement dispensé par ces écoles n'est pas d'un bon niveau. Jacques Aristide.
À l'aide d'un haut-parleur, cet enseignant du collège Adjal, situé dans la capitale camerounaise, demande à des centaines de parents, tuteurs et d'enfants réunis à l'extérieur de cette école secondaire de rentrer chez eux. Mais les protestataires sont catégoriques, ils videront les lieux une fois qu'ils auront eu la garantie que l'établissement ouvrira ses portes. C'est l'une des 76 écoles secondaires et 245 écoles primaires qui ont été fermées au Cameroun pour avoir opéré illégalement ou dans de mauvaises conditions. Gloria Yancy est l'un des parents mécontents. Elle confie avoir déjà payé les frais de scolarité pour ses deux enfants.
L'État ne devrait pas attendre la rentrée scolaire avant de fermer les établissements. Il devait fermer les établissements au moins pendant les vacances. Parce qu'à ce niveau, maintenant, ce sont les parents qui sont dans des difficultés parce qu'ils ont déjà versé les frais d'inscription qui ne leur seront pas remis. Frustration, c'est une période de frustration.
Un autre parent, Nebagwa Valentine, indique que sa fille est allée se faire inscrire avant que ne débute l'année scolaire le 5 septembre. Mais mauvaise nouvelle, le gouvernement a ordonné la fermeture de l'école qu'elle avait choisie.
Learning can never take place in a very nasty environment.
L'apprentissage ne peut pas se faire dans un mauvais environnement. Ces mêmes écoles sont dépourvues de toilettes et d'eau courante. Vous apprenez parfois que certains de leurs propriétaires sont des mécaniciens dont le niveau d'éducation ne s'arrête qu'au certificat d'études primaires. C'est inacceptable. J'ai même vu une résidence privée servant d'école. Il n'y a pas de terrain de football. Il n'y a pas de verger non plus.
Certaines écoles missionnaires, qui sont généralement considérées comme faisant partie des meilleures au Cameroun, ont également été mises sous scellés, d'après Agangwa Théophilus, conseillère au syndicat des enseignants de l'autorité d'éducation presbytérienne. Il accuse le gouvernement de non-respect des procédures régissant la création des établissements scolaires.
Il y a quelque chose de fondamentalement mauvais. Il faut soumettre des documents au ministère concerné en vue d'obtenir l'autorisation formelle pour la création et l'ouverture d'une école. Mais en vertu de la loi, 30 jours après avoir déposé ces documents, vous pouvez aller de l'avant avec votre projet, même s'il n'y a eu aucune réaction du gouvernement.
Le gouvernement camerounais appelle les propriétaires d'écoles à pourvoir leurs établissements des nécessités de base, comme l'eau courante, les toilettes et terrains de jeu. Ce qui fait dire à Leke Tambo, secrétaire général au ministère de l'enseignement secondaire, que certaines écoles pourront rouvrir leurs portes si ces conditions sont remplies. Le gouvernement, dit-il, a également demandé que les frais de scolarité soient remboursés aux parents. La fermeture d'écoles n'est pas un fait nouveau au Cameroun. En 2013, 750 établissements clandestins avaient été interdits d'opération. Toutefois, selon le syndicat des enseignants du Cameroun, ces écoles ont fait fi de l'interdiction et ont continué à opérer, une situation que le syndicat attribue à ce qu'il qualifie de responsable d'éducation corrompue.
Une série d'attaques à la bombe a causé la mort lundi de 30 personnes au moins dans trois villes de Syrie, tandis que 45 autres ont été blessés, selon l'agence officielle Sanaa. Ces attaques interviennent au lendemain de la perte par le groupe État islamique de ses dernières positions le long de la frontière turque et d'un succès de l'armée syrienne et de ses alliés qui ont réussi de nouveau à assiéger les quartiers rebelles d'Alep. Le G20 devrait reconnaître aujourd'hui que la crise des réfugiés est un défi mondial dont le poids financier doit être partagé entre ses membres, a indiqué un diplomate européen peu avant la diffusion du communiqué final du sommet de Hangzhou dans l'est de la Chine. Le texte mentionne explicitement que cela nécessite le partage du fardeau entre les pays de l'organisation qui représente 85% de la richesse mondiale, ainsi qu'une augmentation des contributions de la communauté internationale, selon le même diplomate.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le procès de l'un des chefs de la nébuleuse djihadiste en Belgique, Khalid Zerkani, qui devrait s'ouvrir aujourd'hui à Bruxelles, a été reporté au 28 novembre pour des raisons de procédure, a indiqué le tribunal correctionnel de Bruxelles. Khalid Zerkani, un Marocain actif dans la commune bruxelloise de Molenbeek de 2012 à 2014, est présenté par la justice belge comme le plus grand recruteur de candidats au djihad de Belgique, n'était pas présent à l'audience. En France, des ennuis judiciaires pour Nicolas Sarkozy, le parquet de Paris a requis un procès contre l'ancien président français et 13 co-inculpés dans une affaire de financement illégal de la campagne perdue pour sa réélection en 2012. Une décision de renvoi devant un tribunal correctionnel avant la primaire dans son parti menacerait de contrecarrer les ambitions de Nicolas Sarkozy de reconquérir l'Élysée. Et puis des dizaines de milliers de Brésiliens soutenant l'ancienne présidente de gauche, Dilma Rousseff, destituée mercredi, ont défilé dans les rues de Sao Paulo dimanche contre son successeur Michel Temer. Michel Temer en déplacement en Chine pour participer au sommet du G20 quelques jours à peine après son entrée en fonction, a minimisé l'événement et déclaré que les manifestants étaient des petits groupes de prédateurs. Jean-Roger Billon, le prochain journal c'est dans 50 minutes. Ce sera avec Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.